L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Alors, ce 10 février 2024, au Gazette Café, de 14h30 à 17h30, a eu lieu le 7e Gazette Africa. Le thème, la citoyenneté des migrants. Nous recevions pour cette occasion Adam Idrissou, président de l'association Bénin Solidaire Sans Frontières, jeune chercheur en anthropologie sociale et sociologue et en sociologie Master 2, anthropologie et culture et identité mondialisation à Paul-Valéry 3. Adeline Nicoladze, bénévole à la CIMAD auprès des migrants pour le droit d'asile et de séjour, et José Fleiss, professeur de français, qui témoignait en tant que aussi ancien migrant. Les témoignages et interactions ont eu lieu ensuite avec la salle. Et c'est un événement Radio FM+, organisé et animé par Marie-Claude Siakézak et Jérémy Ziri, qui sont animateurs de l'émission « L'Afrique dans tous ses états » sur FM+. Et ceci avait lieu, cet événement avait lieu en collaboration avec le Gazette Café. Donc, je vous propose d'écouter une partie de cette rencontre, puisque nous avons dû la fractionner en trois parties. Donc, bonne écoute et à bientôt.
De 10h à 12h, on débattait sur des sujets, on faisait des débats sur des sujets de grossesse en milieu scolaire, on allait vers des filles, femmes, des filles pour leur parler. Il y a une communauté à Djougou où des filles n'étaient pas autorisées à venir en cours parce que à l'âge de 16 ans, elles devraient déjà être mariées. Donc des cas de mariage forcé, tout ça, on a été obligé de lutter pour ça. Et c'est là que j'ai pu me faire connaître par ces actions. Et les associations m'ont toujours appelé vers eux pour animer. J'ai cette facilité aussi de faire des actions avec des résultats derrière. Et à force de parler avec les gens, ils te disent ce qui se passe de l'autre côté. La télé, moi, franchement, je ne suivais pas la télé. Ma vie était ce que je rencontre dans le quotidien. La télé, je n'ai pas du tout suivi parce que je sais que la période à laquelle j'ai été, j'étais enfant, on nous a vendu des CD de films indiens et tout ça. Et toutes mes grandes sœurs, elles étaient toujours accrochées à la télé. Elles regardaient des feuilletons tous les jours. Mercredi, il y a tel feuilleton, tel. Mais moi, on ne me voyait pas là. Moi, c'était autre chose. À quel moment je vais décider de migrer? Je vais décider de migrer à un moment où je dirais, ben, puisque ça avance et que je n'ai rien et qu'on ne m'écoute pas, et on n'écoute que les étrangers, il faut peut-être que j'aille voir une autre culture, associer cette culture à ma culture pour mieux transmettre ma culture. Parce qu'à un moment donné, quand on commence à avoir des révélations du pouvoir traditionnel qu'on t'attribue, on se cherche. Et moi, à un moment donné, je commençais à faire des rêves, à avoir des révélations, que j'avais un rôle à porter, j'avais cette facilité orale de parler à mes collègues. Durant tout mon cursus universitaire, j'étais un étudiant qui luttait pour les autres. On mettait des tables et on mettait des chaises pour que je monte pour parler à mes collègues, pour qu'on puisse lutter pour nous, en notre faveur. J'ai été président de mon parcours de sociologie jusqu'en licence. Et ça a toujours été ça. Dès qu'on voit Adam, on dit, ben Adam, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'on se réunisse, qu'on fasse quelque chose. Il faut lutter. Donc, dans cette posture de revendicateur, je revendiquais la cause de tout le monde, au point où je me suis oublié. Et je me suis toujours oublié, d'ailleurs. Et j'ai eu cette chance de faire cette procédure Campus France qui m'a amené en France. Je suis arrivé en avion. J'ai rêvé peut-être de partir, mais à aucun moment je n'ai pensé prendre par la Méditerranée ou pas. J'ai eu des moments où j'entends des gens, oui, il est parti, il a réussi, il a été en Libye, il a été en Syrie. Mais moi, les livres m'ont beaucoup aidé sur ce coup-là, la lecture. Et je demanderais beaucoup à la jeunesse de la diaspora de lire. La lecture, c'est quelque chose de très important. Je suis arrivé en France par cette procédure-là. Je suis arrivé à Nîmes. Je me suis inscrit. Et je me lève et je dis, Aujourd'hui, je suis ici, j'ai fait 6000 km pour arriver ici. Nous, quand on arrive à partir, et quand on a fait 6000 km, c'est que on vient pour son pays, sa famille, pour soi-même et pour rencontrer des gens. Nous sommes en formation de BTS Tourisme. Je m'attriste parce que j'ai pas envie que dans 2 ans, qu'on soit des professionnels de tourisme et que un couple vienne nous voir et dire, nous, on souhaiterait aller au Bénin et que ce soit en ce moment-là qu'on se souvienne qu'on a étudié avec un Béninois. Oui, c'était la réaction qu'il y avait eu ce jour-là. Ils n'ont pas osé au moins faire des mimiques, mais c'était calme. Mais moi, j'avais cette force-là de le dire dans la bonne ambiance en plus. J'étais très drôle, je l'ai bien sorti. Et à un moment donné, il y a eu cette tristesse dans les regards. J'ai dit, moi, si je suis ici, c'est parce que j'aime votre culture, cette culture qui a été d'autre part imposée à mes ancêtres. Moi, je ne vois pas le négatif dans toute la colonisation. Bien au contraire, j'ai beaucoup d'éléments pour illustrer le côté positif. Le côté positif, déjà, c'est le français que nous parlons, cette langue Molière qui disparaît au fur et à mesure en Europe. Et je dis toujours, on a toujours cette chance par rapport à des pays anglo-saxons qui, quand ils viennent avec leur accent anglais, c'est difficile d'apprendre le français. Donc, toujours dans cette optique, le côté positif, c'est quoi? C'est cette joie de vivre. Moi, j'arrive et c'est moi qui prends la parole, je dis ça. À la sortie, à la porte, tout le monde était venu me toucher l'épaule. Même mes amis qui ne me saluaient pas sont venus me dire, ça va le faire. C'est parce qu'on apprend à te connaître. Là, moi, j'ai appris quelque chose en même temps. C'est en ce moment-là, j'ai appris que dans le Sud, quand tu es étranger, il faut que tu fasses le quadruple, le double pour qu'on te connaisse. Mais quand on a compris que tu n'as pas des armes dans ta poche, c'est bon, tout le monde t'accepte. On peut même t'inviter pour un apéro. Et là, tout a commencé. Dans la semaine, le directeur m'invite dans son bureau. Ben, je pense même au retour des vacances, ça a parlé un peu dans le conseil, entre les profs. Et j'ai été invité dans le bureau du directeur. Un jeune directeur qui venait d'arriver, M. Loquet d'ailleurs, avec qui je suis toujours en contact. Il m'a dit, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous avez un parcours, vos enseignants ne arrêtent de parler de vous. Vous avez eu le courage de vous prononcer. Dites-nous en quoi nous, on peut vous aider. Donc, vous voyez comment ça peut partir. Et je dis, ben, j'ai tout raconté. J'ai raconté un peu comme je peux. Je n'ai pas tout dit. Hein. Ce que j'ai dit ici, c'était plus.
Donc, merci.
Oui. Donc, j'ai commencé. Je leur ai dit, ben, moi, je suis ici pour un voyage, pour un projet de voyage solidaire. Mon rêve serait de créer une association en parallèle, aider les populations de ma communauté, soutenir mon pays. Et j'ai, oui, rencontrer des gens passionnés par l'histoire de mon pays. J'étais motivé. Quand on arrive avec l'énergie là, tac, tac, tac. Et ils m'ont dit, si vous avez un projet, c'est maintenant. Lancez-vous. Ici, là où je vous parle, j'ai un œil en moins. Mais il a mis du temps que je l'avoue en France pour avoir cette RQTH, cette fameuse RQTH.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on constate très souvent, contrairement à la rumeur qui voudrait que les gens viennent pour se faire aider. Mais d'ailleurs, c'est vrai, j'ai envie de dire, c'est vrai même pour les personnes en France. Quand les gens, on constate quand même que très souvent, ce sont les gens les plus défavorisés, les plus démunis, qui vont demander le moins. Il y a des tas de gens qui ne savent pas qu'ils ont droit à des aides. Ou alors qui pensent que c'est pas courageux, c'est pas bien, il faut pas demander. Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage parce que, bon, bah, on est une société solidaire, tout le monde, ceux qui travaillent cotisent pour que ceux qui après, voilà, puissent avoir des droits. Et moi, ça me frappe beaucoup, et notamment par exemple, pour la question de la santé. Très souvent, alors bon, moi il se trouve que je m'occupe de la permanence des gens qui demandent l'asile. Et donc quand les gens arrivent, ils vont à la préfecture, ils ont un petit entretien. Et il y a ce qu'on appelle l'entretien de vulnérabilité, où la personne de l'OFI est censée regarder si les gens sont vulnérables, pour savoir s'il va falloir les loger, pas les loger. Et donc il y a une question, c'est-à-dire qu'on coche des cases. Êtes-vous malade? 99% des gens disent non. Bon, alors que, ne serait-ce que les gens qui ont fait ce grand parcours, en général, ont toujours soit été blessé. Mmh. Bon, voilà, je me souviens de quelqu'un de Gambie qui avait un éclat de ferraille dans le mollet. Bon, et vraiment, c'était infecté et tout. Et ben, à l'entretien, il avait dit non, je ne suis pas malade. Alors, parce que d'abord, les gens disent ben non, je ne suis pas malade. Malade, c'est quand on a la fièvre, quand on n'est pas bien. Parce qu'ils n'ont pas envie de présenter l'aspect de quelqu'un qui est malade, qui n'est pas bien. Et donc, on dit rien. On est très, très digne. On dit non, non, tout va très bien. Et puis après, nous, quand on les voit, on essaye d'avoir une relation avec eux. Donc, on leur demande, est-ce que vous avez une maladie? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous dormez bien? Bon, on découvre qu'effectivement, très souvent, malheureusement, les gens sont en mauvaise santé. Et donc, du coup, voilà, ils peuvent aller à l'hôpital, ils peuvent se faire soigner. Et c'est abyssal la différence qu'il y a entre ce qu'ils ont répondu, ce qu'ils ont dit d'eux-mêmes, voilà, par fierté, parce qu'ils ne savent pas, parce que ça. Et puis, voilà. Mais parce qu'effectivement, les gens ne pensent pas du tout, je vais venir, comme ça, je vais me faire soigner, je vais avoir ci, je vais avoir mi. Pas du tout. Là, je donnais l'exemple à Dan d'un jeune homme, alors lui, il est afghan, bon, qui travaillait depuis 8 mois ici. Le restaurant a brûlé, donc il s'est retrouvé sans rien. Et il ne savait même pas que, alors qu'il a le droit de vivre ici, qu'il avait droit à des allocations chômage. Et il a fallu qu'on lui dise, mais bien sûr que si, tu as travaillé pendant 8 mois, tu as cotisé, donc ça ne va pas être beaucoup, mais ça va être un petit peu. Et voilà, et c'est vrai que souvent, les gens, ils savent pas, ils n'osent pas demander. Ils disent, bon, écoutez, je suis déjà là, c'est déjà bien, donc n'exagérons pas, faisons-nous discrets.
Oui, donc ça s'inscrit en faux par rapport au bruit qui peuvent circuler dans. Hein. Ouais, et puis on a eu un exemple.
Oui.
On a un exemple concret. Là.
On a un exemple concret, ça c'est sûr. On va faire une étude de cas. Moi, mes problèmes, je pense que c'est maintenant. J'ai besoin de la CIMAD. Parce que j'ai fini mes études. Je finissais mes études et j'avais pour ambition d'intégrer une thèse. Et comme vous savez, c'est une course pas négligeable. Donc, j'ai fini mon terrain d'ethnographie au Sénégal. 3 mois, je travaille sur des questions de tourisme et développement, mémoire de l'esclavage et sa mise en tourisme au Bénin et au Sénégal et le devenir des religions. Et depuis juillet 2023, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas mon renouvellement de titre. Donc, l'administration ne nous facilite pas du tout la tâche. Je pensais que c'était un problème à mon niveau, mais non, c'est la préfecture, parce qu'ils ont eu des gros retards dans le Gard. Et moi, ça m'a bloqué. À l'heure où je vous parle, j'ai eu 2 attestations de prolongation, et ce qui cause problème pour qu'on me verse mes indemnités, parce que finalement, j'ai pas tout à fait fini mon mémoire, parce qu'il faut que je refais mon mémoire pour pouvoir me réinscrire dans le même master, le valider et pouvoir avoir la possibilité de me positionner encore pour ma poursuite en thèse, donc rechercher encore des contrats doctoraux. Et dans le temps où je demandais mon document, j'ai envoyé tous ces documents avec mon projet de thèse, tout et tout. Normalement, la préfecture a tout. Ils sont informés que je suis en master 2 d'anthropologie, j'ai un souhait de faire ci, c'est ce qu'ils nous demandent de faire. Entre-temps, le préfet, ils ont changé de préfet. Donc d'abord, ils ont tout bloqué. Quand ils sont revenus, moi, je n'ai pas eu de réponse. Moi, j'étais en contrat de travail parce qu'ils savent très bien que c'est pendant les vacances, nous qui sommes à close études, on travaille pour pouvoir avoir le temps de maximiser le plus de coûts juste en décembre avant de chercher d'autres boulots en plus. Donc là, je n'ai pas eu de réponse jusqu'au 25 août avant qu'ils m'envoient une attestation de prolongation et me demander des documents complémentaires. Je renvoie les documents complémentaires de réinscription dans mon master et tout ce qui va avec. Entre-temps, j'ai changé d'adresse parce que j'ai déménagé, je suis venu à Montpellier. J'ai envoyé tous les documents. Aucune réponse, aucun retour. J'étais là. J'attendais. Et l'attestation de prolongation finissait le 24 novembre. Déjà, quand on a des attestations de prolongation, les employeurs, ils ne veulent pas nous prendre. Parce qu'on peut beau avoir un boulot saisonnier, ça se complique. Mais moi, j'étais fidèle à ce travail-là que je fais. En fait, je travaille au domaine des coteaux C'est dans une station d'emballage de fruits. Et depuis que je suis là, c'est le mieux hein, pour pouvoir bien étudier. C'est pendant les vacances qu'on fait ça, on fait beaucoup d'heures. Et après, on est bien, on se débrouille. Donc, eux, ils me connaissent. Donc, ils ne m'ont pas fait rupture de contrat. Mais s'ils ne me gardaient pas, aujourd'hui, je serais là. Et jusqu'à présent, j'ai toujours cette même difficulté parce que je me suis engagé pour un service civique grâce à l'RQTH parce que j'ai bientôt 30 ans le 15 juin. Et je fais un service civique qui a démarré le 23 octobre au département de l'Hérault où je fais une valorisation de l'offre culturelle gratuite auprès des allocataires du RSA. C'est un sujet qui est intéressant pour moi parce qu'on voit qu'il y a... Je suis au milieu du social et de la culture. Mmh. Et j'ai mon service civique. Normalement, l'indemnité me suffit pour continuer mon mémoire. Mais non, j'ai tout qui est bloqué. Je ne reçois pas mes indemnités par rapport à la préfecture. Parce que l'ASP qui me verse mes indemnités considère que la préfecture doit justifier entre la période du 24 et la période du 3 janvier où finalement ils m'ont redonné une attestation de prolongation. Entre-temps, il m'a fallu faire des allers-retours, d'envoyer des documents, de les appeler, d'envoyer des documents par mail. Je demande un rendez-vous au moins pour m'expliquer. Non, c'est pas possible, ne venez pas. J'envoie les documents, je demande au département de l'Hérault qu'on me fasse des attestations pour justifier que j'ai des ressources et que cette année au moins, j'ai eu la bourse, échelon 1 quand même. Et c'est pas mal, donc pour moi, en tant qu'étudiant, je comptabilisais au moins 800 euros par mois. C'est dans les normes, il faut 600, au moins 600 pour pouvoir valider et avoir les ressources pour justifier des ressources suffisantes pour avoir son titre. Donc la préfecture a accusé son retard, mais c'est moi qui encaisse. Voilà une étude
oui.
de cas.
Oui, mais ça, je crois que c'est bon, alors, on connaît tous l'administration en France, hein, comme c'est compliqué, mais... c'est parce que avec ces histoires de migration, de gens qui seraient clandestins, etc., il y a une espèce de peur, moi je trouve, de la part des employeurs, de la part de l'administration, qui fait que au lieu d'essayer d'ouvrir les possibilités, de dire bon ben voilà, oui alors effectivement on attend, vous avez qu'un petit papier provisoire, ben écoutez, on continue et puis quand vous aurez le papier définitif, ben venez nous le donner. On anticipe sur toujours la pire des possibilités. C'est-à-dire, l'employeur va se dire, ah ben non, je vais pas lui renouveler, je vais arrêter de le faire travailler parce qu'au cas où la préfecture ne lui donnerait pas son titre, et ce qui est surprenant, c'est que par exemple, l'université, dont on pourrait penser quand même que les gens sont plus ouverts d'esprit, bon, fait la même chose. Nous, on a le cas d'une jeune fille iranienne qui, comme vous, faisait un master, alors elle avait le même cas que vous. Bon, l'année où elle devait présenter son mémoire, c'est le moment où elle faisait venir sa famille qui était restée. Donc, ça a été quelque chose de très perturbant. Donc, elle n'a pas pu écrire son mémoire. Elle obtient de son directeur de mémoire de faire le mémoire l'année d'après. Et quand elle se présente en septembre, on lui dit « Ah, mais vous redoublez, madame. » Ah bon, alors déjà, pas de bourse. Parce que quand on redouble, pas de bourse. Donc, déjà, elle perd sa bourse. Et après, on lui dit... Bon, alors là, bien sûr, comme vous n'avez pas de bourse, comme vous êtes étrangère, vous allez payer les 3 200 euros d'inscription. Donc, elle, ne sachant pas, commence à donner 300 euros, déjà, en disant, bon, bah, écoutez, est-ce que je peux payer petit à petit? Bon, elle vient nous voir, on lui dit, mais écoutez, non, on va essayer de faire une négociation avec l'université, puisque c'est votre directeur de mémoire qui vous a autorisé à refaire une année, on ne va pas considérer que c'est un redoublement. Bon. Et donc, entre le directeur de mémoire qui, effectivement, a dit ça, mais ne s'est pas préoccupé de savoir ce qui allait se passer après, parce que lui, ça, la question administrative, c'est pas son truc. La personne de la comptabilité qui lui a dit, ah ben si, mademoiselle, il faut payer. Donc, du coup, elle avait pas de carte d'étudiant. Donc, du coup, pas de carte d'étudiant à la fin de l'année. Si elle a pas sa carte, elle peut pas présenter son diplôme. Parce que même si elle l'a, pour qu'il soit valide. Et toutes ces petites choses qui semblent rien du tout, qui prennent un temps infini, c'est juste parce que, voilà, je pense que la peur que peut-être de ne pas faire quelque chose de très bien et de dire, oh là là, mais on a laissé quelqu'un s'inscrire alors que peut-être il n'avait pas les papiers, ce qui en soi n'est quand même pas Voilà, c'est pas comme si on était dans un service au service de la défense de l'État et que on divulguait un secret. Fait que petit à petit, voilà, on a l'impression que la société, elle se racornit et elle a de plus en plus peur. Et toutes ces petites choses qui pourraient être réglées extrêmement simplement, où voilà, on ferait confiance aux gens. Alors parfois, ben, on fait confiance et puis on se trompe. Mais pour une fois où on se trompe, 90% des fois, on a raison. Et on voit bien que dans toutes ces petites choses administratives, c'est ben voilà, ben non, vous avez pas ça, vous avez pas ci. Et ça, c'est dommage, parce que ça, c'est vraiment la peur de l'étranger qui fait que les esprits, on a l'impression que les esprits se referment et que la part sombre de chaque personne va prendre le dessus par rapport à la part éclairée.
Bon, merci, c'est un très bon éclairage. En plus, c'est vrai que ça remet bien les idées en place par rapport à tout ce qu'on peut entendre, que ce soit voilà dans la rue, en société, à la télévision, dans les news, etc. quoi. Donc merci, grâce à toi, Adam, on a eu un éclairage. Alors comme le temps se poursuit et que vous l'avez compris, Adam est intarissable. Hein, il a énormément de choses à dire, mais bon, on va pas l'autoriser là. Quand même, on va poser des limites un petit peu. Je pense qu'il le comprend. Alors, je vais te demander si tu as, voilà, une petite la dernière fois, parce qu'après, il faut qu'on donne, parce que vous allez voir, on a un cas de figure complètement différent. Et comme ça, vous n'allez pas vous ennuyer à la suite. Donc, est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour la conclusion de toi, ta présentation, et par rapport à ce qu'Adeline vient de nous dire aussi?
Oui, j'ai toujours quelque chose à dire, ça c'est clair.
Ça, on a compris.
Mais Adeline, merci pour ces clarifications et pour la réponse. Je pense qu'il faudra patienter et croiser les doigts pour le retour de l'avis favorable, pour que j'aie le cœur tranquille. Après tout ça, ça ne supprime pas l'engagement. Association Bénesse aux Leaders Sans Frontières avance bien. Je suis toujours sur des manifestations culturelles pour échanger avec les gens. Et nous, l'administration, c'est autre chose. Si vous voulez en savoir plus, je demande toujours aux gens d'aller lire Stéphane Le Courant, parce que lui,
ah oui,
il
vrai,
arrive à expliquer. Moi, je l'adore parce que je l'ai lu un peu. J'aime bien comment il décrit cette situation, comment les migrants, finalement, maîtrisent mieux l'administration que l'État.
Oui, Stéphane Le Courant, oui, c'est vrai qu'il faut, ouais. Enfin, il faut dire. Il a fait un livre, hein, il a fait une recherche. Il était étudiant, il a fait une recherche, il a, sous le couvert de la CIMAD d'ailleurs, il a exploré et il a fait un bouquin.
Ouais. Et nous, on l'avait invité pour notre masterclass de mon master et on l'avait présenté et ça nous a permis d'aller fouiller un peu ce qu'il a fait. Et c'est vraiment extraordinaire l'ethnographie qu'il décrit. Stéphane Le Courant, il a écrit « Vivre sous la menace, les sans-papiers et l'État ».
Voilà, donc pour toi-même, tu n'as plus rien à dire si ce n'est pour ton association.
Pour moi-même, il n'y a que l'association et je vis, je continue et je prie mes ancêtres que tout aille bien et que cette bénédiction aille avec vous.
Bon, merci Adam, merci Adeline. Voilà, et on va passer à la... On peut les applaudir, non, quand même?
Bon, merci Marie-Claude, merci à tous d'être là. Je prends le relais, hein, parce qu'on a deux invités, on s'est répartis un peu les rôles. Alors, je vais interviewer...
Est-ce qu'il fonctionne?
Oui, il marche très bien, merci encore. Alors, on a le plaisir de recevoir José, que j'ai déjà eu à la radio. José va se présenter, d'où il vient, son pays d'origine, et qu'est-ce qui l'a emmené en France. Voilà. Vas-y. Ah oui, tu peux.
Bonjour. Je m'appelle José. Je viens du Mozambique. Alors moi, je suis pas francophone. Alors je parle français. J'ai 55 ans et je parle français depuis l'âge de 20 ans. Ça va comme ça? Voilà. Non, j'ai appris le français en France. Avant d'arriver en France, je parlais portugais, anglais et 5 autres langues africaines. Et quand je suis arrivé en France, je devais apprendre à le parler, ce français-là. Et donc, qu'est-ce qu'il m'a fallu faire? Alors, autre chose, il faudrait que vous dire, peut-être que je n'ai pas le même parcours qu'Adama, parce que moi, je suis venu ici avec la bourse de Jacques Chirac en 88. C'est-à-dire que Jacques Chirac avait compris que le sud de l'Afrique, il n'y a pas de pays francophone. Et s'est dit, pourquoi ne pas draguer ce pays qui s'appelle le Mozambique, qui est le seul pays qui parle portugais dans le sud de l'Afrique et qui est une espèce de base, vous saurez plus tard, elle n'est pas encore militaire, mais bon, la France, elle est bien installée au Mozambique depuis 1995 et depuis 2014, il y a Total dans le nord du pays et il y a une guerre qui se profile au nord du Mozambique. Donc, je ne sais pas où j'en étais. Je me perds. Et donc voilà, donc j'arrive. Moi, j'ai fait mes études, exactement. Donc, je fais mes études donc, au Mozambique. Je fais mon bac en 86. Le Mozambique est un pays communiste. Et en 86, moi, je voulais faire du droit. Et le président du Mozambique décide de fermer la fac de droit pour subversion. Et donc voilà, on était perdus, on pouvait pas. Et on était. Alors, on avait le choix entre être prof de portugais ou aller à l'armée. Donc pendant 2 ans, donc on galérait, on savait pas quoi faire de notre bac. Et en 88, on est invité au lycée et on trouve là-bas des Français qui nous parlent d'un projet de réintroduction du français en Mozambique. Et donc nous avons refusé ce projet. Et l'armée était là pour nous dire, si vous voulez pas aller en France, vous faites l'armée au Mozambique. Non, c'était pas facile quand même. Donc voilà, c'était de menace de côté. Et finalement, on accepte en fait ce projet d'apprendre le français pendant 8 mois, à raison de 6 heures par jour, du lundi au vendredi. Mais on parlait pas, on s'exprimait pas, parce qu'enfin, personne ne parlait en fait le français en Mozambique. Alors il faudrait peut-être que je revienne en arrière. En 1976, le Mozambique est devenu indépendant en 1975. Et en 1976, le président du Mozambique décide la suppression du français, qui était la deuxième langue enseignée au lycée. Et donc, il remplace le français par l'anglais, donc en 1976. Alors, ce qui fait que le projet... je me perds un peu, là. Je suis pas comme Adama, hein. Je suis pas très à l'aise. Mais ça va venir, mais je sais pas où j'en suis. Je suis vraiment un peu perdu. D'accord.
Tu parles le français, tu parles le Mozambique.
D'accord.
Tu arrives à la bourse de Chirac.
Non, j'arrive à, oui, effectivement. Donc, j'arrive à la bourse de Chirac. Et donc, pendant 8 mois, on apprenait donc le français. Et, on est arrivé ici en février 89. Et c'est la première fois que je parlais français, donc le 5 février 89, j'arrive en France. Et ça fait bientôt, je ne sais pas combien d'années, je suis là. Et j'avais une bourse d'études de $500 par mois, ce qui m'a permis pendant 2 ans de faire mes études. Mais à partir de la troisième année, on nous a obligés on nous a intimé l'ordre de rentrer donc au Mozambique. Et moi, j'ai refusé et on m'a coupé la bourse. Et donc, on m'a coupé la bourse. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? Je me suis tout de suite, j'ai passé mon permis en 91-92 et je me suis acheté une voiture. J'ai travaillé dans une station d'essence pendant 8 ans pour payer mes études. Voilà, c'était juste la différence, je pense. Voilà. Et donc, j'ai fait mes études de littérature, de français, de lettres modernes et français, langue étrangère et sociolinguistique. J'ai fait mon devoir et puis je vous raconterai après, j'obtiens la nationalité, je vous raconterai plus tard. Et aujourd'hui, je suis professeur de français, je suis dans un collège, par choix, dans un établissement le plus difficile de l'Académie de Montpellier, qui est à Pisvin, à Nîmes. Et j'y suis depuis bientôt 10 ans. Avant, j'ai été chargé de cours à l'université et puis je fais le lycée, j'ai passé 4 ans à Budapest, au lycée français de Budapest, et puis je suis revenu avec un divorce. Enfin, je vous parlerai de tout ça après.
Malide nun toye babani bam, malide nun toye babani bam, Mali de nunto e kobani ban. Mali nyamoyo, awe kofile Mali de nuna. Mali nyamoyo, awe kofile Mali de nuna. Mali de nunto ye babani ban. Mali nyamoyo, Mali nyamoyo, Mali de nunto ye kobani ban. Mali de nyo, Mali de nunto ye kobani ban. Mali nyamoyo, Mali de nunto ye kobani ban. Mali de nunto ye babani ban. Mali nyamoyo, Mali nyamoyo, oyo kufile Mali de nuna. Oyo kufile Mali de nuna. Oyo kufile Mali de nuna. Mali de nunto ye babani ban. Mali de nunto ye kobani ban. Mali nyamoyo, aya kofile Mali de nuna. Mali nyamoyo, Mali nyamoyo, aya kofile Mali de nuna.
I'm gonna go